Radio Primitive et Galaxy Pop présentent Jurassic Park, le format court qui t'en dit long sur la préhistoire de tes artistes préférés.
Made in USA.
Is the goal to make something that maybe transcends this era we live in?
That's a good question. The goal is definitely just to sort of try and recreate like myself in song form. That was really my only ambition throughout this whole thing. I mean, like, I've been making music for a long time, but it was really only ever just to please myself. Because I really write because I love to write, and I sing because I like to sing. I think the way that I make music is different from the way that some people make music, but only in the way that I write for myself.
Aujourd'hui, j'ai décidé de faire dans le contemporain. C'est un proche que je me fais beaucoup. J'ai tendance à n'aborder que des artistes qui ont démarré dans les années 70, 80 ou 90, au détriment d'une programmation plus actuelle, mais force est d'admettre que depuis la dématérialisation de la musique et du reste, trouver un élément discographique préhistorique est devenu plus difficile. Les artistes ayant démarré leur carrière après l'ère internet ont en effet toutes et tous commencé à promouvoir leur musique via les réseaux, SoundCloud, YouTube, Bandcamp, Reverb Nation ou Feu MySpace pour ceux qui ne sont pas encore tout à fait vieux mais plus vraiment très frais, et ont ainsi laissé des traces de leur début facile à débuter. Ce qui rend l'attache moins difficile et moins intéressante, du moins pour moi. Bref, on est loin de l'époque du 45 tours obscur tiré à 500 exemplaires. Malgré tout, certains malins ont réussi à brouiller les pistes, soit en participant à tellement de projets qu'il est difficile de s'y retrouver, soit en ayant été musicien dans tant de groupes qu'on a l'embarras du choix, soit en choisissant de changer de pseudo à chaque redémarrage, et c'est l'option pour laquelle Lana Del Rey a opté. Car oui, en plus de faire dans le contemporain, je vais enfoncer des portes ouvertes. Et ça va être long. J'ai donc mis du temps à recoller les morceaux quand j'ai découvert cet artiste en 2011, comme à peu près tout le monde dans la salle. 2011. Vous vous souvenez ? On n'était encore pas trop mal, hein. Ça fait clic, 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 pam, pam, pam. Video Games arrive comme un cheveu sur la soupe EDM avec un titre mélancolique et éthéré, absolument pas dans l'air du temps, misant tout sur un contraste radical, tant musical que visuel, car ne nous leurrons pas, dans le cas Lana Del Rey, l'image et plus particulièrement les clips ont pesé lourd dans la balance du succès. Le charme mélancolique des archives Super 8 a séduit le public, mais là où l'interprète de Video Games a su tirer parti du charme rétro de ses archives, c'est en se mêlant à leur contexte passé-dépassé, ce qui laisse une impression fantomatique de la présence de la chanteuse. Une artiste contemporaine et bien vivante, errant dans une époque elle bien morte. Mais l'icône de la génération Tumblr, #désenchanté, nage à contre-courant aussi d'un point de vue sociétal, incarnant une Lolita en chair et en os, dans un contexte proche MeToo, provoquant sur son passage la controverse, voire carrément le rejet pour certains.
Alors moi j'ai dit non. Non. Je dis non!
En effet, Lana Del Rey assume et véhicule au travers de sa poésie et de son imagerie des histoires d'amour bancales, imparfaites, où la femme est souvent malmenée par des hommes toxiques. La romantisation de la dépendance affective et de la mélancolie pose également problème à la génération Z qui n'aura de cesse de remettre en question la légitimité de l'artiste. Et je suis obligé de faire un premier arrêt pour expliquer le fond de ma pensée. La controverse entourant Lana Del Rey n'a en réalité pas vraiment de sens mais n'est pas inintéressante pour autant. Encore une fois, on peut lier ça à du sexisme qui existe, on l'a vu et revu depuis le début de la saison, dans les labels et dans le milieu artistique plus largement, mais mais qui cette fois-ci s'exerce aussi en dehors de ce cercle et est appliqué par le public, qui le fait sans vraiment s'en rendre compte, mais malgré tout, s'acharne sur une artiste dont le succès fulgurant et le talent n'est pas à remettre en question, mais questionne beaucoup, et surtout beaucoup de gens instrumentalisés par un débat dont ils ne maîtrisent pas tous les codes, oubliant en passage qu'il s'agit là d'incarnation et de performance artistique. Et ça se vérifie, dès le début, les gens lui ont cherché des poux. A commencer par le texte de Video Games qui a été qualifié de creux et de n'avoir aucun sens. La poésie polaroid de Lana Del Rey ne fait pas l'unanimité, mais surtout ne convient pas aux esprits paresseux habitués certainement à des trucs plus schématiques. Mais on s'en fout un peu, et elle aussi d'ailleurs, elle a depuis largement démontré son talent dans ses chansons et dans un recueil de poèmes, Violent Bend Backwards Over the Grass, sorti en 2020. On s'en est ensuite pris à la taille de ses babines, le point chirurgie esthétique étant un classique de la misogynie, il aurait été étonnant qu'elle y échappe. Puis il y a eu ce passage au Saturday Night Live, où stressée et mal à l'aise, la chanteuse a malheureusement loupé sa prestation, mais la presse s'est-elle délectée de la voir se vautrer ainsi, ravie de voir une jeune artiste se prendre les pieds dans le tapis. Autrement dit, elle était attendue au tournant, un succès pareil cache forcément un loup. Et le loup en question, c'est Canal+ qui va se vanter avoir débusqué. Lors d'une interview quelques jours après la prestation foireuse au SNL, la chanteuse alors invitée au Grand Journal va être questionnée sur la ressemblance troublante entre sa chanson Video Games et un titre de la chanteuse grecque Eleni Vitali. La partie de l'interview concernant le pseudo-plagiat ne sera pas diffusée par Canal, mais l'information, elle, sera bien relayée par les réseaux sociaux et la presse, et quand bien même il y a effectivement une ressemblance entre les deux titres,
je m'en carre le cul.
Tous ces exemples et bien d'autres encore démontrent ô combien un tel acharnement en l'espace de quelques mois prouve qu'on lui en voulait tout court d'avoir réussi en si peu de temps et qu'elle devait désormais manger son pain noir. De fait, toute cette dialectique mise en place pour démontrer le propos gênant de ces textes et de l'imagerie l'accompagnant n'a rien d'étonnant. Tous ces youtubeurs emplis de bonnes intentions prétendant soutenir un féminisme en dénonçant l'aspect problématique de Lana Del Rey jouent en réalité le jeu du sexisme, sans le savoir, oubliant au passage que Lana Del Rey est un personnage qu'Elizabeth Grant a pris le temps de construire, à partir d'éléments de sa vie qu'elle a choisi d'exacerber et d'éléments de fiction totale, assemblés dans un cadre précis, celui de la performance artistique. J'imagine que vous ne regardez pas Buffy contre les vampires en mode documentaire, même si soit il est le fruit d'un contexte précis et qu'on pourrait certainement en tirer une étude sociologique. J'imagine que vous n'écoutez pas Space Oddity en mode premier degré en vous imaginant qu'un jour David Bowie s'est perdu dans l'espace. Il en va de même pour Lana Del Rey, qui pour moi d'ailleurs a plus à voir avec Bowie qu'avec ses contemporains. Gaga, oh là là. Et en effet, je ne tombe pas loin en disant ça, puisqu'elle rendra hommage à Space Oddity dans une chanson intitulée Terence Loves You. Lana Del Rey est également reconnue par ses pairs, enfin devrais-je dire ses mères, puisqu'elle entamera une tournée commune avec Courtney Love en 2015 et accomplira l'exploit de convaincre une jeune Bez en pré-retraite de venir chanter sur scène avec elle en 2019. Jeune Bez qui d'ailleurs peindra le portrait de Del Rey une année plus tard.
Mais elle est où la cohérence entre Courtney Love et Joan Baez?
Cherche pas, il y en a pas. Lana Del Rey, c'est un peu le trait d'union entre Elvis et Kurt Cobain, un melting pot de Petula Clark et Courtney Love, Greg Araki meet David Lynch, un mélange de glamour et de street. Tout ça pour dire qu'après tant de réflexion et d'analyse profonde,
ça va le melon.
J'ai rapidement flairé que Video Games n'était pas son premier coup d'essai et qu'il y avait certainement des trucs à aller diguer. Je fais donc comme tout le monde dans ces cas-là, je sors mon Minitel. En réalité, j'étais pas au bout de mes peines. Elizabeth Woolridge Grant est née en juin 85. Elle est donc une enfant de la génération Club Dorothée, sauf qu'elle est née à Manhattan, donc elle n'a jamais eu vent de pas de pitié pour les croissants, ce qui aurait considérablement changé sa trajectoire, car on commence à y être habitué désormais. Recontextualisons les choses, aux États-Unis, le mélange religion, argent, apparence et pudibonderie est un cocktail quelque peu explosif. Elizabeth grandit dans le calme de la campagne de Lake Placid, dans une famille catholique. Elle fréquente donc une école catholique, ça va de soi, et chante dans la chorale de son église dont elle est chantre. C'est l'équivalent de lead dans un groupe de rock, mais dans une église en gros. Mais la jeune enfant ne trouve pas toutes les réponses à ses questions dans la religion, bien au contraire. Souffrant de ce qu'on qualifie aujourd'hui d'esprit en arborescence, Elizabeth va chercher les réponses à ses multiples questionnements métaphysiques et philosophiques ailleurs que dans une église ou les saintes écritures. Et le parcours ne va pas être de tout repos.
L'important, c'est le voyage, pas la destination.
Elle éprouve très tôt un intérêt pour les années 50 et 60, que ce soit dans le cinéma, la mode et plus précisément la musique, se passionnant pour des artistes tels qu'Elvis Presley, Petula Clark, Frank Sinatra et Billie Holiday pour ne citer qu'eux. Elle se réfugie également dans la littérature et plus particulièrement la poésie qu'elle lit et pratique et écrit ses premières chansons dès l'âge de 12 ans. Mais sa curiosité, sa soif de connaissance et plus que tout son angoisse de la mort l'amèneront dès l'âge de 11 ans sur des chemins de traverse. Elle fait le mur, fréquente des garçons plus vieux qu'elle et consomme de l'alcool régulièrement au point d'être déclarée alcoolique à l'âge de 14 ans. Je cite « Je buvais beaucoup, je buvais tous les jours, je buvais seul. » Je trouvais ça super cool. Mes parents étaient inquiets, j'étais inquiète. Je savais que c'était un problème quand j'ai commencé à préférer ça à tout le reste. Au début, tu te dis c'est cool, c'est mon côté sombre, c'est excitant. Puis tu réalises que ce côté sombre l'emporte un peu plus à chaque fois que tu recommences. Ta vie change aussi quand tu vis ça. Tes fréquentations aussi. c'est la pire chose qui me soit arrivée. À l'âge de 15 ans, son père l'envoie se sevrer de son alcoolisme à la Kent School, une école épiscopalienne très stricte du Connecticut, où elle va faire la rencontre déterminante, celle de Jim Campbell, son professeur d'anglais. L'homme de 22 ans deviendra le mentor d'Elizabeth, alors en pleine crise existentielle. Et je refais un arrêt une seconde car je vous vois venir. Un adulte de 7 ans son aîné qui la prend sous son aile, ça vous fait tilt. Mais jusqu'à preuve du contraire, Elizabeth Akalana Del Rey n'a jamais admis qu'il s'était passé quoi que ce soit avec cet homme, même si beaucoup de rumeurs circulent à ce sujet, rumeurs alimentées en grande partie par des fantasmeurs qui cherchent le moindre signe de gênance dans la vie personnelle de l'artiste. Une chose est sûre cependant, Lana Del Rey le cite régulièrement encore aujourd'hui en interview et admet être restée très amie avec cet homme. Du cinéma à la musique en passant par la littérature, Monsieur Campbell fait découvrir à la jeune fille une culture alternative. De Lolita de Nabokov à Kurt Cobain, la fenêtre ouverte par son professeur lui permet de trouver enfin un écho à ses propres questionnements, celui des destins brisés, des gens cassés par la vie, de ces personnes qui ne se sentent pas représentées par les normes imposées dans la société américaine. Elle profite également de cette parenthèse enchantée pour développer son art primaire, la poésie. Elizabeth écrit et développe son style, on retrouvera même certains de ses poèmes mis en musique quelques années plus tard. Elle sort du collège, son diplôme en poche, et prend une année sabbatique à Long Island chez son oncle qui lui apprend la guitare. Et c'est là qu'elle a le déclic. Promis, j'arrête avec ce même audio, mais c'est tellement tentant. Elle découvre le songwriting et piche qu'avec ses 6 cordes, elle peut écrire 1 million de chansons. Et c'est ce qu'elle fera. Loin de moi l'idée de vous spoiler, mais avant Born to Die, il y a eu 2 albums et 10 EP. Si vous ajoutez à ça qu'après Born to Die, elle a sorti 7 albums, qu'un nouveau est en cours de production et que pour chaque album, il y a un nombre incalculable de démos et d'outtakes, sans compter les projets d'albums avortés, nombreux eux aussi, tout ça en l'espace de 20 ans environ, on peut effectivement considérer qu'elle a bien mesuré ô combien l'art du songwriting n'a pas de limite. Bref, revenons en 2004. Elizabeth, alors âgée de 19 ans, embraye sur un cursus en philo et plus particulièrement la métaphysique à la Fordham University dans le Bronx pour, comme elle le dit, combler le fossé entre spiritualité et science. Elle cumule plusieurs jobs dont celui de mannequin pour la Ford Modeling Agency sous le pseudonyme Lizzie Grant. Parallèlement, elle compose, écrit et commence à avoir des connexions avec des musiciens new-yorkais qui l'encouragent à persévérer dans cette voie. Et elle va prendre la chose très au sérieux. Elle finance avec l'aide de sa famille des sessions d'enregistrement au Jim Cushman Studio de Lake Placid. Ces sessions donneront naissance à 2 extended plays, Young Like Me en avril 2005 et From the End en décembre de la même année. Doing all right most of the time. In fact, yesterday I was even doing real well, and I think that I might claim you as mine so that my head can rest and everybody can tell. Courant 2006, celle que l'on nomme désormais Lizzie Grant commence à se produire dans divers clubs, bars et open mic.
Le sachez-vous ?
Les open mic sont des scènes ouvertes dans des bars, des clubs ou des cafés où des artistes amateurs et professionnels peuvent performer de la musique, de l'humour, du théâtre ou de la poésie sur simple inscription préalable en début de soirée devant un public hétéroclite souvent dissipé. Ces représentations peuvent amener à faire de belles découvertes ou pas.
Tu pues le chat, tu pues le chat, pourquoi est-ce qu'on te nourrit ? Allez tout le monde !
Elle finalise la même année son premier projet cohérent et complet, un premier album, Sirens, sous un nouvel alter ego du nom de Mae Jeller. Enregistré au Jim Cushman Studio avec l'aide d'Alex Fritzl, l'album concept aussi entre folk et pop acoustique, guitare-voix, dont le sujet central tourne autour d'un mystérieux personnage, un certain Kay. Et c'est là que ça devient intéressant, et ça illustre plutôt pas mal la dialectique réalité-fiction et fabrication du mystère Lana Del Rey. Un peu à l'image d'un Major Tom, Kay est un personnage qui reviendra souvent dans les chansons de l'artiste dès l'ère Born to Die. On ignore s'il s'agit d'un personnage fantasmé ou réel, on ignore même s'il s'agit d'une seule personne ou d'une synthèse de plusieurs hommes qu'elle a connus. Dans tous les cas, l'arc narratif tourne autour d'une histoire d'amour qui démarre comme toutes les histoires d'amour, mais dont le dénouement révèle une personnalité trouble et insaisissable, ce qui mène à une fin inéluctable. Dans l'univers de Lana Del Rey, les histoires d'amour finissent mal en général. Je cite « C'est un homme qui pensait que j'étais l'une des choses les plus exotiques qu'il ait jamais vues, et moi je me dévoue à son appréciation et à son amour. De l'extérieur, il était beau et sain, mais sous le vernis, il dirigeait une entreprise électronique illégale qui a fini par l'entraîner, lui et ses amis, dans la tourmente. » Spoiler, à la fin, Kay prend 30 ans et serait toujours dans le couloir de la mort. Tout un programme. Mais il est intéressant de relever le fait que Kay est un personnage présent dans la mythologie de Lana Del Rey depuis le début de sa carrière. Cependant, malgré le jusqu'au boutisme du projet, Sirens ne dépasse pas le stade des exemplaires promo destinés à la presse. L'album finit donc au fond d'un tiroir. Il faudra attendre 2012 pour qu'il refasse surface, suite au succès de Video Games et au hack de son PC surtout. Car si aujourd'hui nous avons accès à toutes ces archives de l'artiste, je me dois de vous l'expliquer, c'est parce qu'un malin a piraté le PC de la chanteuse en 2012 et a eu accès à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'archives la concernant. On dénombre pas loin de 200 démos pré-Born to Die et c'est la raison pour laquelle on va s'arrêter était là aujourd'hui.
To be continued.
There was a drive-by Sunday night. Most of us were in bed, alright. I turned down the light. Then I heard the sirens interrupt the silence. Is this
making money's hard to do right. Guilty was his plight. Now he's in a jail cell for some 30 years now. Is this what you wish to be serving time? Is this what you wished to be serving time? Is this what you wish to be serving time? Serving time, serving time. Think about him as he does time. Misses white wine. Funny, I don't feel free, even though it's not me. Is this what you wished to leave me behind? Is this what you wished to leave me behind? Is this what you wished to leave me behind? Me behind, me behind. That his time was up and then he got retried. Double homicide. Send him on a death row, not to hang around though. Is this what you wished? Did you wanna die? Is this what you wished? Did you wanna die? Is this what you wished? Did you wanna die? Wanna die? Die. Did you wanna die? Wanna die? Wanna die? Wanna die? Did you wanna die?
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Vous venez d'écouter l'épisode 9 de la saison 3 de Jurassic Park. Il est dispo en replay sur le site off de La Prime et sur les applis courantes de podcast. Si ça vous a plu, mettez des petites étoiles sur Apple Podcast ou un mot sympa sur Podcast Addict. Ça mange pas de pain et ça met
des paillettes dans ma vie.
À la prochaine et prenez soin de vous.